Bonjour à tous, 21e numéro d'Un Spectateur et place aux critiques. Mais avant de commencer cette émission et de laisser la parole à Caroline, Marie-Ève, Florent et Willem et à leur regard exigeant de critiques en herbe, je voudrais vous rappeler qu'il ne vous reste plus, chers auditeurs, que quelques jours pour nous envoyer vos créations sonores dans le cadre de la 3e édition du concours Frisson, dont le thème est, cette année, vous avez 6 heures. 6 heures et 5 minutes de création sonore, alors à vos micros, enregistreurs, platines et autres logiciels de montage pour finaliser vos productions. Résultat, le 29 mars, le jour de la 2e édition de la journée de la radio, organisée par votre radio préférée, vous savez tout. Alors si en mars, Transistor met l'ENS sur écoute, eux, toute l'année, ils mettent le monde du théâtre lyonnais en alerte. Les critiques amateurs dans spectateurs ont affûté leurs plumes et leurs dents pour revenir sur deux spectacles très différents. Matin et soir, d'abord, joué les 5, 6, 7 et 9 février dernier en Théâtre Cantor. Vous étiez peut-être parmi les 30 privilégiés des 6 représentations. Et Prenez soin de vous pour moi, à découvrir encore jusqu'au 18 février au Théâtre des Marronniers. Alors d'un côté, on a une pièce impressionniste et symbolique, Matin et soir. De l'autre, on a un polar sur fond de jazz et d'univers concentrationnaire. Et un point commun, ces deux spectacles sont des adaptations de romans. Celui du même nom de Yon Foss pour le spectacle Matin et soir, mis en scène par Quentin Rioual, et dans lequel on pouvait notamment voir Antonio, chroniqueur régulier de cette émission, passer pour l'occasion donc du rôle de spectateur à celui d'acteur, ça arrive. Adaptation d'un roman également pour Prenez soin de vous pour moi, mis en scène par Vincent Puységur, roman de François Joly, Les femmes sans balance. Deux spectacles, deux univers, un jingle, puis des critiques. Matin et soir, Johannes accomplit les mêmes gestes. Solitude du train-train dépeuplé d'un vieux monsieur dont l'épouse, Erna, et le meilleur ami, Peter, sont morts, à qui il ne reste plus que sa fille cadette, Zig, qui vient parfois lui rendre visite. Mais un matin, c'est le soir, et l'été en même temps que l'hiver. Tout se détraque, et pourtant tout est pareil, mais plus rien n'a de sens. Et quand Johannes rencontre Peter sur la grève et monte dans sa barque pontée, il se demande, tout comme le spectateur, où est la réalité. Même Erna est là, fidèle à sa cuisine. Comment a-t-il pu croire qu'elle était morte ? Se demande Johannes. Alors Florent, tu étais en Théâtre Cantor, j'ai essayé de résumer rapidement la trame de cette pièce, Matin et soir. Tu y étais, qu'as-tu pensé du spectacle ?
Alors aujourd'hui, une petite critique de Matin et soir, dont je ne parlerai pas à ce propos de tous ceux qui l'ont mise en scène, car la liste est bien trop longue. Alors avant tout, moi c'est une pièce, Thomas donc, puisqu'on en parlait dans le couloir, qui en soi m'a plu. Alors vraiment, il y avait des très belles images, l'histoire était pas mal, même si j'ai trouvé que la fin était un peu trop explicite et que je n'ai pas très bien compris pourquoi la femme de Johannes apparaissait. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait une partie de la pièce qui n'était pas forcément utile de mettre en scène. Donc à part, disons, trois quarts d'heure de trop dans la pièce, entre autres parce qu'on était quand même assez mal assis sur ces caissons, j'ai trouvé quand même la pièce très belle, avec en particulier la très belle scène où Johannes et Peter sont dans la barque avec cette espèce de lumière de stroboscope qui met les personnages au ralenti. Voilà donc une mention spéciale pour Antonio, qui est quand même resté figé dans le noir pendant plus de 45 minutes dans une posture hiératique magnifique qu'on ne devinait qu'à travers les ombres, pendant que la femme de Johannes lui parlait de tartines au fromage de chèvre. Supplice supplémentaire infligé au spectateur qui, à 22h45, commence à baver sur sa voisine, elle-même endormie. Alors si la pièce était plutôt bien, moi, il y a vraiment une seule chose qui fait obstacle à une contemplation réjouie et détendue de cette pièce, c'est l'espèce de masse de prétention que je trouve assez dégueulasse, pour utiliser un mot qui résume bien mon sentiment, qui était autour de cette pièce. Alors, bon, le public limité à 30 personnes, j'ai trouvé que c'était pas extrêmement bien exploité. par exemple. Ça, ma critique pourrait se limiter à ça. Étant donné que j'ai vu le livret avant, qui était une espèce de feu d'artifice d'ego, du coup, j'interprète cette limite à 30 personnes comme quelque chose d'extrêmement prétentieux, du type « Nous sommes l'élite, nous avons fait une pièce d'élite expérimentale, donc nous ne l'ouvrons qu'à 30 personnes, car au-delà, notre art exploserait les yeux des masses. » Alors ce livret, je vais en parler un peu plus parce que moi la pièce, voilà, j'ai rien d'autre à dire et je pense que d'autres en parleront mieux, mais ce livret m'a profondément choqué. Alors déjà mettre ses notes de mise en scène quand on n'est pas un metteur en scène connu, c'est étonnant. Enfin, il n'y a pas particulièrement de justification. Ensuite, mettre ses textes au même rang que ceux de metteurs en scène qui au contraire, eux, sont reconnus. Enfin, citer, il me semble, Heidegger et à la suite Paul Ruellan sans distinction, ça m'a l'air d'être d'une prétention assez faramineuse. Ensuite, la présence de tous ces tableaux. Alors, le livret est très beau, hein, je ne critique pas, mais alors le contenu, bon, il y a toutes ces choses très étonnantes quand même. Donc, c'est ces notes de mise en scène, encore une fois, qui d'ailleurs n'ont rien de notes de mise en scène parce que je ne vois pas comment on peut travailler avec des précisions comme « La main tremble ». 24 novembre, « La main tremble ». Alors, j'ai regardé la semaine dernière, on en était où, Thomas ? Bon, on en était à la main d'Antonio Tremble. On reprend là, alors on va... Voilà, j'ai pas noté la scène, mais voilà. Donc on a l'impression qu'en plus, les notes de mise en scène ont été faites pour le livret, ce qui est d'autant plus inquiétant parce que c'est une double malhonnêteté. Voilà, donc des très belles images dans ce livret. Alors, non seulement il n'y a pas de réflexion sur ces images pour nous dire, par exemple, en quoi elles ont aidé à mettre en scène, mais en plus, faire une très belle reproduction d'un tableau avec le pli de la page au milieu, enfin moi je me demande vraiment à quoi ça sert. Voilà, ça alors c'est tout à fait personnel. Et alors, pour finir sur ce livret qui a été quand même assez merveilleux, et alors dernier point quand même, cerise sur le gâteau, finalement, fin du nappage, un peu comme les nappages de ces gâteaux de mariage qui donnent envie de vomir avant même sa première coupe de champagne, la dernière page du livret, les auteurs remercient spécimens, dont les auteurs sont les mêmes que ceux de la pièce. Voilà, donc moi, ça m'a laissé un peu perplexe. J'aimerais beaucoup parler avec les sept metteurs en scène. Enfin, pas tous en même temps, hein, vous bousculez pas. J'ai rien de Blanche-Neige. Donc, j'aimerais beaucoup en parler de ce livret pour comprendre un peu comment il était fait. Mais voilà, sinon, une pièce qui était, somme toute, plutôt intéressante et relativement agréable à regarder.
Alors, peut-être qu'ils t'auront entendu. En tous les cas, on a compris, et c'est assez rare. Une pièce gâchée par son livret. À écouter, Florent, en est-il de même pour... Willem.
Ô mort, vieux capitaine, il faut que tu nous emportes. Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Ce voyage, cherché par Baudelaire à la fin des Fleurs du Mal, on le fait avec la pièce matin et soir. Mais on ne va pas dans les enfers dantesques, dans les enfers grecs ou ni même dans les enfers hébraïques. Cette pièce mène plutôt dans les enfers des Vikings, ce lieu froid, sombre, où planent les âmes dans un ennui mortel. Et cet ennui, on finit par le ressentir extrêmement bien. Le défaut majeur de cette pièce est, à mon avis, sa longueur. Plus de 2 heures de diction lente, ça finit par agacer. Et surtout, la dernière partie du spectacle, la partie explicative, est complètement inutile. Le spectateur n'est pas bête, il a compris ce qui s'est passé. Expliquer ce que l'on vient de faire, c'est un peu dire « on n'était pas très très sûr d'être clair, alors on explicite ». Sauf que si le spectateur n'a rien compris au bout de 2 heures, c'est que la pièce était entièrement mauvaise. Et pourtant, matin et soir n'est pas mauvaise. J'ai adoré la danse entre Johannes et Peter où les corps se rapprochent et s'éloignent. C'est fluide, c'est aérien, parfait. Comme le dirait Jean-Marc Généreux dans Danse avec les stars, j'achète. De même, le travail sur la musique et la lumière est extraordinaire. Ce n'est pas juste là pour faire joli, il y a tout un travail derrière. Les sons et l'éclairage servent la pièce et y participent autant que le décor. Par contre, pour ce qui est de la mise en scène, mon point de vue est assez négatif. Autant sur le papier, l'idée de prononcer chaque mot comme si c'était le dernier est très bonne, autant sur scène, ça devient assez agaçant au bout d'un moment. Personnellement, je trouve que ça en vient à désarticuler tout le texte, et puis on oublie le début de la phrase avant même d'en avoir atteint le milieu. D'autant plus que vers le début de la pièce, Johannes se livre à une sorte de bavardage, un monologue où il évoque ses journées, qui sont toutes les mêmes, sur le mode de la répétition, et ça devient extrêmement lourd. Sinon, le jeu des acteurs en lui-même est très bon, les mouvements surtout sont très bien travaillés, chaque geste compte, et finalement, c'est peut-être plus le mouvement qui fait passer le message que la parole. Là où j'en veux vraiment au metteur en scène, c'est qu'il y a des défauts trop forts alors qu'il y a pourtant de très très bonnes idées et même des moments géniaux. Le tout début de la pièce par exemple, surtout, je l'ai trouvé vraiment sublime. On entre dans le noir, on s'y habitue, puis la lumière qui tord l'espace en le faisant paraître presque infini apparaît, et puis on voit quelque chose qui enfle et s'étale sur scène. On sait bien que c'est un acteur, mais on en doute vraiment. Je pèse mes mots quand je dis sublime, c'est vraiment à couper le souffle. Mais le soufflet en question dégonfle et refroidit. Au bout de 2 heures, ma seule envie, c'était que ça se termine vite, pour que je puisse rentrer boire un thé et surtout m'étaler sur mon canapé, parce que vraiment, on était mal installés, comme tu l'as dit, Florent. En conclusion, je trouve que c'est un spectacle très étrange, qui a des moments sidérants et d'autres atterrants. On oscille entre terre et ciel, entre matin et soir, en tout cas dans un univers qui ne demande qu'à s'épanouir.
Alors, je le fais rarement, mais je vais quand même prendre la parole. Vous savez, normalement, je ne suis qu'animateur dans cette émission. Mais entre Florent, qui a pas mal dézingué le livret, et toi, Will, qui a émis de grosses réserves quant à la mise en scène, j'aimerais dire mon avis de simple spectateur, puisque je n'ai pas la prétention de faire ici des critiques. Mais pour une fois, je vais donner mon avis, puisqu'il est diamétralement opposé au vôtre. Alors, je ne parlerai pas du livret, puisque je pense que c'est un à côté du spectacle. Et que ça ne mérite pas ici dans cette émission d'en parler. Moi, ce spectacle, certes, 2h30 c'est long, c'est un spectacle exigeant. Parfois, on va quand même voir des spectacles qui sont exigeants et ça fait du bien aussi de se forcer et de forcer sa concentration. Peut-être aurait-il fallu faire des coupes, toi et Florent vous en parlez. C'est vrai, peut-être qu'il y a des moments qui devraient être coupés. Il me semble que vers les dernières représentations, les 7 et 9, il y a eu une demi-heure de coupée. Donc peut-être que voilà, c'est aussi un travail et un travail qui évolue. Donc peut-être, c'est la seule, les seules choses que j'aurais en tant que spectateur à dire sur ce spectacle, c'est oui, ça a l'air trop long comme ça, et on est mal assis. Mais à part ça, je voudrais vraiment insister sur l'extrême beauté de ce spectacle et vraiment rapidement souligner le travail phénoménal fait à la scénographie, parce qu'on a vraiment un jeu sur l'espace, un creusement de l'espace et un rétrécissement, une fermeture de l'espace pour figurer l'espace intime et son ouverture grâce à la musique, grâce aux descriptions des paysages, une ouverture qui fonctionne puisque quand Johannes retourne chez lui après avoir vu Peter sur la grève, moi j'avais vraiment la vision alors que de Johannes qui remontait chez lui dans un paysage et je le voyais vraiment dans le paysage alors qu'il était toujours sur scène et que j'étais pas en train de partir en délire, ce qui prouve que ça avait fonctionné et que j'avais moi-même créé un paysage mental sur ce qui avait été fait. J'avais des images de paysages à la Courbée et des descriptions de Loti. Je suis pas sûr que ça soit vraiment ça l'univers de Jon Foss, mais c'est en tout cas moi ce qui m'avait été donné à penser. Donc ça fonctionnait, ce jeu sur l'espace. Un jeu sur l'espace magnifique, relié avec un jeu sur le corps et la chorégraphie magnifique entre Peter et Johannes que tu soulignais à l'instant, Will, et surtout un jeu mais éblouissant sur les lumières. Je crois que depuis qu'on fait cette émission, c'est la première fois que je vois une mise en scène aussi soignée, et c'est pour ça que je trouve que ces points négatifs que tu soulignes, Will, sur la mise en scène, moi je ne les partage pas. Je voudrais aussi être un coup de projecteur sur la performance et la justesse des acteurs, notamment l'acteur principal qui reste 2 heures en scène, et contrairement à vous, moi j'ai trouvé que le phrasé était vraiment un élément extraordinaire de cette mise en scène, parce qu'effectivement, grâce à ce phrasé, on avait une nouvelle écoute au théâtre, une écoute quasi poétique où chaque mot ressortait et chaque mot prenait une autre dimension, du côté de la litanie presque. Et vraiment, je trouvais que ça participait à l'émotion et ça faisait aussi passer la longueur de la pièce, cette lenteur, ce ton qui était du côté de l'incantation. Moi, ça m'a particulièrement plu et ça m'a même, à certains moments, avec aussi le contexte de la pièce assez lourd, ça m'a mis vraiment les larmes aux yeux, et c'est assez rare pour que je le souligne depuis cette année dans les pièces qu'on vous propose. Et surtout, moi, quelque chose qui m'a frappé et dont vous n'avez pas parlé, c'est l'instance de narration qui était partagée entre tous les acteurs et qui changeait d'acteur et qui permet de rapidement questionner les limites entre le roman, puisqu'il s'agit de l'adaptation d'un roman, et le théâtre. Voilà, donc oui, c'était un spectacle exigeant, mais il en faut. C'était pas caché, on vous disait pas c'est une comédie, vous allez vous poiler, et en même temps c'est pas parce que c'est exigeant, hein, c'est pas parce que oui il y a des côtés, je dis pas que c'est parfait, qu'il faut pas rendre justice, et je dis ça évidemment pas parce que notre ami Antonio était dedans. Bon, en tout cas, à vous de trancher, chers auditeurs. Si vous êtes allé voir Matin et Soir, eh ben donnez votre avis. Est-ce que vous êtes plus du côté de Florent ? Oui, bon spectacle, mais ils sont très prétentieux. Du côté de Willem ? Oui, bon spectacle, mais c'est long. Et puis la mise en scène, pas très bien. Ou alors du côté du simple spectateur que j'étais, en défendant mon avis sur cette pièce.